J'aimerais lire une parole dans le prophète Ésaïe. Au chapitre 28e, chapitre 28 du prophète Ésaïe. Le verset 10e. Car ces préceptes sur précepte, règles sur règles, règles sur règles, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il est intéressant, dans le texte original, de relever, comme cela est fait dans différentes notes ou commentaires que vous pouvez avoir, ces mots qui sont là dans le texte original et qui sont les suivants. Tsav, la tsav, tsav, la tsav, cave, la cave, cave, la cave. Précepte sur précepte, règle sur règle. Ces mots sont propres à imiter le langage d'un homme qui bégait. Et on voulait ainsi rendre ridicule le prophète, en lui disant « Mais tu viens toujours avec des règles sur règles, des préceptes sur préceptes, comme pour dire « On en a assez de ces commandements et de ces règles que tu nous donnes de la part de l'Éternel. » Et la réponse de Dieu, c'était donc « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » C'est-à-dire, quand le peuple fut déporté, quand il eut la captivité babylonienne, c'est par un peuple que le peuple de Dieu ne comprenait pas et que Dieu a parlé un langage, il est vrai, très dur et très sévère à ce peuple. Et j'ajouterai une lecture dans Jude, un livre dans lequel je crois qu'on ne lit pas souvent, qui n'a d'ailleurs qu'un chapitre. Le verset 4 de Jude, donc du premier chapitre, il n'y en a point, on peut même ne pas nommer le chapitre. Le verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. » Changer la grâce de Dieu en dérèglement. Voilà le thème de ce matin, le dérapage éthique. Nous voulons prier. Notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as donné une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous permet de voir où nous marchons et vers où nous devons diriger nos pas. Oui, notre Dieu, il est vrai qu'il y a eu dérapage. Il est vrai, notre Dieu, que même ton peuple, à travers l'histoire et jusqu'en notre temps, a souvent dévié, et que nous-mêmes, et nous voulons nous en humilier, nous avons nous-mêmes parfois fait de faux pas, nous nous sommes parfois trompés, nous nous sommes parfois égarés, et nous t'en demandons pardon. Ô notre Dieu, veuille toi-même toujours à nouveau, par ta parole et par ton esprit, nous ramener dans le bon chemin. C'est la grâce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans vouloir peindre, comme on dit, le diable sur la muraille, il faut reconnaître que les choses ne vont pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Autrefois, les villes et les villages avaient des murailles, des remparts, des fossés, des tours, derrière lesquels les populations se sentaient en sécurité. Le développement démographique et économique a fait tomber ces enceintes fortifiées, dont il ne reste souvent plus que des vestiges ou des ruines, quand elles n'ont pas complètement disparu. Mais voici que dans un autre domaine, les murs, des murs, sont aussi tombés, ou sont en train de s'écrouler, ou d'être démolis. Un ennemi a fait irruption dans les cités, dans les églises et dans les vies. On assiste à l'écroulement des principes de moralité qui pourtant paraissait longtemps immuable et intouchable, surtout parmi les chrétiens. Et nous sommes témoins de ce qu'on pourrait appeler un effondrement d'une civilisation. C'est comme si une digue se rompait. Et je rappelle la parole de Pascal, quand tous vont vers le dérèglement, nul ne semble y aller, et que celui qui s'arrête fait remarquer l'emportement de tous. Nous devons nous demander maintenant, pourquoi y a-t-il eu dérapage? Pourquoi y a-t-il encore dérapage de nos jours? Et là, il y a plusieurs points importants que je crois que nous avons relevés dans le résumé que vous avez, le cours 2, sous vos yeux, j'espère. Et le premier, c'est une mise en question de la normalité et de la normativité. Ce sont deux choses différentes que nous voulons distinguer, la normalité et la normativité. On dit que les frontières entre normalité et anomalie sont bien loin d'être nettement tracées. Cela, on le dit dans cette petite brochure verte et jaune, la sexualité. Une brochure qui a été éditée par la Fédération protestante de France, il y a déjà un certain nombre d'années. Donc, je répète, on y dit que les frontières entre normalité et anomalie sont bien loin d'être nettement tracées. On ne sait plus ce qui est juste, ce qui est bon. On a perdu le maître étalon. Je reviens à certaines notions de hier soir pour faire le joint. On a perdu le maître étalon. On ne veut plus de la morale biblique. On déclare même qu'il n'y a pas, à vrai dire, de morale biblique normative. Aujourd'hui, la règle, nous dit-on, c'est l'absence de règle. Ou si vous préférez, le mot d'ordre de 1968, il est interdit d'interdire. Cela est très significatif. Roger Mell, professeur de théologie protestante à Strasbourg, est cité dans Les fondements pour l'avenir, dans la brochure que certainement plusieurs d'entre vous ont déjà vu ou même lu, de Pierre Courtial. Et bien dans cette brochure, Pierre Courtial cite les propos de Roger Mell, que je cite maintenant moi-même. Il est vain, dit Mell, de chercher dans le message néo-testamentaire des normes précises ou même des directions quelque peu concrètes pour une éthique sociale. C'est vain de chercher cela, on ne le trouve pas dans l'Écriture, dit-il. Donc, c'est l'inflation des valeurs morales, c'est le dérèglement des mœurs, c'est l'impiété, c'est l'apostasie, pour employer un terme encore plus fort. C'est la grâce de Dieu changée en dérèglement, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jude. Il n'y a plus de normalité et il n'y a plus de normativité. On ne sait pas ce qui est normal, et puis on ne veut pas de normes. Mais que veut-on? Eh bien, on veut s'accommoder. C'est l'accommodation qui est une cause nouvelle du dérapage de l'éthique. En d'autres mots, on veut adapter notre conduite à l'évolution des mentalités et des mœurs. On veut adapter l'esprit à notre époque, on veut s'adapter à l'esprit de notre époque. La Bible, nous dit-on, est dépassée. Il y a maintenant un nouveau style de vie. J'emploie des formules qui vous sont connues, que l'on entend, que l'on lit un peu partout. Et c'est l'opinion publique qui fait abroger des lois. Ainsi, parce que l'avortement est devenu une pratique courante, on a voulu le sortir de ce que l'on appelle la clandestinité, on a voulu décriminaliser l'avortement. Et l'on change les lois. Ce qui est condamné, ou ce qui était condamné plutôt, est d'abord toléré, et puis finalement admis, et pire encore, cela devient officiel. Au point que quelqu'un, qu'un médecin qui refuserait finalement de pratiquer l'avortement, serait même condamné, condamnable. Et j'ai entendu à France Inter, il y a quelques mois, la formule suivante, c'est sondage qui nous gouverne. On fait un sondage, on fait une enquête, et puis on dit que tant pour cent de gens sont pour telle et telle chose, et finalement, cette chose, puisque tant de gens sont pour, va devenir normale. On déclarera qu'elle est normale, et voilà pourquoi les sondages nous gouvernent. C'est l'éthique de situation variable, toujours adaptable aux nouveaux courants qui vont venir. Il y aura d'autres nouveaux courants dans quelques temps. Il y en a chaque année, pour ne pas dire tous les jours. Il faut être de son temps. Alors les goûts à la mode sont considérés comme normatifs. On ne veut plus la parole de Dieu. Il n'y a pas d'éthique chrétienne, biblique. Par conséquent, il faut qu'il y ait quelque part autre chose qui nous gouverne. Et il faut qu'il y ait une autre autorité. Et l'autre autorité sera le goût, les goûts de notre monde actuel, les goûts de la masse qu'on va considérer comme étant normatifs. À temps nouveau, nouvelle morale. Voilà une autre formule que j'ai lue quelque part. Bien sûr, on nous dira qu'il faut se méfier du ghetto. Il ne faut pas que les chrétiens s'enferment dans leur ghetto et continuent de vivre une vie qui n'est plus de notre époque. Mais que dit l'Écriture ? Est-ce que vraiment c'est vivre dans le ghetto que de proclamer la loi de Dieu, que de rappeler les commandements de l'Éternel et que de dire avec l'apôtre Paul aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent ? C'est la condamnation formelle de ce conformisme que nous trouvons dans notre monde actuel. Ce qui ne veut évidemment pas dire que nous devons nous conformer au siècle passé. Il faut que nous soyons prudents et équilibrés. Il n'est pas dit que nous devons forcément nous habiller comme les gens du 19e ou du 18e siècle, ou du 1er. Il faut là aussi nuancer un petit peu et chercher à ne pas se rendre ridicule, ni à rendre ridicule la parole de Dieu. Mais on s'adapte souvent pour éviter le conflit, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas créer des problèmes. Mais dans quelle mesure les premiers chrétiens se sont-ils adaptés à l'environnement païen dans lequel ils vivaient pour avoir la paix et pour être reconnus comme citoyens à part entière? Encore une formule très chère à nos contemporains. Je crois que les premiers chrétiens ont eu le courage de leurs opinions et qu'ils ont su vivre autrement que les païens et autrement même que les juifs, au milieu desquels pourtant ils vivaient. Et c'est pourquoi on les a persécutés aussi. Et que même les juifs les ont persécutés au début. Alors nous avons, je pense, compris qu'on cherche à adapter le droit public en vigueur à l'évolution de notre société et qu'on veut faire de même avec la parole de Dieu dans les milieux dits chrétiens. On veut adapter notre comportement, notre éthique à la mode du jour et on dit que la Bible est dépassée. Une autre cause encore, les tabous. Vous avez entendu certainement ce terme prononcé par certains chrétiens, jeunes chrétiens peut-être, les tabous. Il faut faire sauter les tabous. La psychologie moderne s'attaque aux effets pathologiques de ce que l'on appelle ou de ce qu'elle appelle le moralisme. Défini comme un code, un ensemble de défenses et de prescriptions ou d'exigences. On veut supprimer les tabous. On dit que ça rend malade les gens. La religion, disent certains, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Ce n'est pas notre définition, bien entendu, mais c'est la définition de beaucoup de gens du monde. Ah, la religion, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Tu ne feras pas. Il ne voit pas le côté positif, il ne voit que le côté négatif. Il peut certes y avoir une culpabilité pathologique, une angoisse névrotique. Et à ce propos, on pourrait lire le livre de Paul Tournier, « Vraie ou fausse culpabilité », qui contient pas mal de vérités, je crois, importantes à connaître. C'est vrai que le légalisme peut provoquer chez certains un dérangement, un trouble, une fausse culpabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vraie culpabilité dont on ne peut pas se défaire simplement en criant contre les tabous. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le premier a lutté contre certaines choses qui pouvaient faire du mal. Il a montré ce qui était important et ce qui était secondaire. N'a-t-il pas dit un jour aux pharisiens, vous éliminez le moucheron et vous avalez le chameau. On peut s'arrêter à des petits détails et on peut ne pas voir qu'il y a des choses plus importantes qu'il faudrait d'abord régler. Il y a une déformation moraliste, légaliste, dont Pierre, le grand apôtre Pierre, a dû être guéri. Je fais allusion à Pierre chez Corneille, Actes, chapitre 10. Vous savez combien il n'a pas voulu aller dans la maison d'un païen, combien il a évoqué la loi qui ne lui permettait pas de manger à la table d'un païen. Et quel grand moyen le Seigneur a dû employer pour le convaincre d'obéir, la nappe avec les animaux purs et impurs. Et la voix qu'il a entendue, prends, tue et mange. Il était lié, je ne dirais pas par un tabou, mais il était quand même lié par des interdits qui provenaient de la loi, mais d'une loi qui était dépassée, comme nous l'avons dit hier. Il y a des lois qui ont été pour un temps et qui provenaient, c'est vrai, de l'Éternel, qui était bonne à l'époque, et qui provenaient parfois également de la tradition, traditions humaines, qui avaient ajouté à la loi de Dieu toutes sortes de choses que Dieu n'a jamais ordonnées. Et vous savez que Jésus lui-même a dit que vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Il y a des interdits qui viennent de Dieu et qu'il faut respecter. Il y a des interdits, des tabous qui viennent de l'homme et qu'il faut abandonner. Alors, il nous appartient, là encore, de discerner. Je ne dirais pas de faire un choix, mais de vraiment réfléchir, prier et de chercher dans la parole de Dieu ce qui est pour nous et ce qui fut pour les Juifs. Et il ne s'agit surtout pas de déculpabiliser le pécheur par la psychanalyse, mais de présenter au coupable le pardon de Dieu qui est en Jésus-Christ, après repentance sincère. Voilà le seul et le vrai moyen par lequel la culpabilité peut être levée. Ce n'est pas en disant à quelqu'un « tu n'as pas péché » que nous allons lui faire du bien quand il a péché, mais c'est plutôt en lui disant « eh bien, il faut reconnaître ton péché, il faut le confesser devant Dieu, il faut se repentir ». J'ai dit ce matin à un des frères à notre table que dans le dictionnaire Larousse, le mot « repentance » n'était plus, ne figurait plus. Le verbe y était encore, se repentir, avoir du remords. Mais « repentance » n'y était plus, n'y est plus. Tabou. Et puis, il y a encore autre chose au nom de la liberté. La liberté. Ah ben, les structures aliénantes. Nous sommes libres. C'est le grand mot de nos jours. Et il est utile... Ai-je lu, je vous lis dans Promesse, ce petit journal qui est aussi là, à côté. Non, c'est celui-là. Voilà. Je lis quelque chose que j'ai dans une note qui figurait dans le numéro 70, c'est celui-là, probablement. Oui, 73. Oui, alors c'est pas le même. Il est utile, dit ce frère dans une note, de faire remarquer l'absurdité d'imaginer une liberté quelconque dans la discipline d'une loi sur le plan simplement naturel. Ça veut dire quand il y a une loi, sur le plan simplement naturel, on ne peut pas imaginer une liberté quelconque dans cette loi. Car si on fait autrement que la loi l'indique, eh bien, il y a un désordre évident. La liberté de circuler en voiture est fonction du respect par tous des règlements de la circulation. C'est évident. La liberté de jouer d'un instrument dépend d'abord de notre soumission aux lois qui déterminent le bon usage de cet instrument et du respect des règles de la musique. C'est aussi évident pour chacun de nous. Il en est de même pour la pratique de tous les arts, de tous les métiers. C'est un refus stupide de cette évidence qui conduit la peinture et la musique, tant de savants, tant savantes que populaires, dans des impasses et l'insignifiance que l'on connaît. Quand on regarde la musique, et quand on écoute la musique, quand on regarde la peinture moderne, on comprend ce que veut dire ce frère, où conduit justement cette liberté de faire n'importe quoi, de faire n'importe comment, de n'avoir finalement plus aucune règle. Il faut des règles dans n'importe quelle profession, il y a des règles d'art qui doivent être respectées. La vie morale et sociale, est-il ajouté, des hommes, est elle aussi soumise à ces règles de bon sens. Mais on ne veut plus de contraintes morales, on ne veut plus de carcans, on ne veut plus de codes, on ne veut plus de règles de conduite, parce qu'on est adulte, nous dira-t-on. Ce sont toutes des formules que j'ai trouvées, que vous trouvez, que nous entendons. Le chrétien adulte, devenu adulte, il n'est plus un enfant auquel on doit dire « tu ne dois pas faire et tu dois faire ». Il est devenu adulte. Et l'on veut s'assumer, dit-on. Pourquoi la ruine de Jérusalem? Parce qu'ils ont abandonné ma loi, dit l'Éternel, que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Jérémie 9, 13 à 14. Or, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors pour certains, tout ce qui est loi, prescription, représente une structure aliénante, insupportable. On n'en veut plus. Même le croyant moderne ne veut plus être guidé autoritairement, dit-on. Toute autorité est devenue suspecte. Et je crois qu'en cela, nous subissons l'influence du monde où l'indiscipline et l'insubordination et l'anarchie gagnent du terrain tous les jours. Alors on en arrive à ce que l'on appelle couramment, et dont parle beaucoup Pierre Courtial, à cet antinomisme, anti qui veut dire contre, et nomos qui veut dire loi. On est contre la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, dit-on, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6e. Mais on interprète mal cette parole. La lettre tue, l'esprit vivifie. Que veut dire cela? La lettre tue, parce qu'effectivement, elle accuse et condamne. L'esprit vivifie, parce qu'il assure le pardon, la vie nouvelle, à celui qui se repent et qui croit. Ce sont là les rôles respectifs de la loi et de l'esprit, sans que pour autant la loi soit discréditée par l'esprit, comme certains comprennent ces paroles. La réforme protestante, a distingué trois usages différents de la loi. Et Courtial en parle, M. Nicole en parle dans son livre Précis de doctrine chrétienne, et surtout Calvin en parle dans son Institution chrétienne, même si parfois l'ordre n'est pas tout à fait le même chez les trois, chez d'autres encore qui en parlent. Mais il est important, je crois, de rappeler les trois usages de la loi d'après les réformateurs. Il y a d'abord l'usage dans le cadre de la vie civile pour assurer l'ordre, pourrait-on dire, pour limiter le mal, pour punir les délinquants. C'est un effet dissuasif, des menaces qu'elle contient, des menaces dans la loi. Et c'est la crainte du gendarme, dans un langage plus simple, qui fait que la loi est utile, simplement, purement sur le plan social, pour tout homme. Et puis il y a un autre usage que nous révèle la parole de Dieu, c'est que la loi met en évidence que nous sommes pécheurs. Je n'ai pas connu le péché, ou je n'ai connu le péché que par la loi, dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Je ne l'ai connu que par la loi. Voilà l'utilité, l'autre utilité de la loi. Elle nous fait connaître le péché. Elle nous fait savoir que nous, que je suis pécheur. Et puis je rappelle encore dans ce même paragraphe, le fait que la parole de Dieu, que la loi, pardon, est appelée le pédagogue qui nous conduit à Jésus-Christ dans Galates 3, 24. Voilà donc un autre usage. Et puis il y a un troisième usage qu'on oublie parfois, ou que certains chrétiens veulent ignorer ou même rejettent, c'est l'usage didactique. L'usage qui fait que l'enseignement de la volonté de Dieu nous est communiqué par ce moyen. Et là, il concerne les régénérés, les chrétiens que nous sommes. C'est là que se trouve la valeur éthique de la loi pour nous. La loi demeure l'expression de la volonté de Dieu. Elle n'est pas abrogée. En Jésus-Christ, ce qui est abrogé, supprimé, c'est la malédiction de la loi. C'est le fait que cette loi devait nous apporter la malédiction de Dieu, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu. Alors ce côté-là est supprimé par le fait que Jésus-Christ a porté la malédiction sur la croix du calvaire. C'est important, c'est fondamental pour nous. Mais les prescriptions morales demeurent. Elles ne sont pas supprimées par la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans Romains chapitre 6e, verset 12e, et ailleurs encore, que la loi est sainte, que la loi est spirituelle, que le commandement est bon, et qu'il nous demande, anéantissons-nous la loi, au contraire, nous la confirmons. Romains 3, 31. Nous la confirmons. Gardons-nous donc de faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est encore l'apôtre qui le dit, Galates chapitre 5, verset 31. Ou pour faire de cette même liberté un voile qui couvre la méchanceté. 1 Pierre chapitre 2, verset 16. Un voile qui couvre la méchanceté. Ou une occasion de chute et de scandale pour le prochain, toujours la liberté, occasion de chute et de scandale pour le prochain, Romains 14, 21. Il est bien évident que nous devons rejeter le légalisme par lequel on croirait pouvoir faire son salut ou mériter la faveur de Dieu. Nous sommes contre cette notion que obéir à un commandement ou à une loi ou à une éthique chrétienne, nous procure quelques mérites et nous donnerait droit à la vie éternelle. Mais le Nouveau Testament contient beaucoup de commandements et beaucoup d'ordres. J'ai eu une discussion un jour avec un frère qui disait qu'il n'y a plus de commandements pour le chrétien. Et j'ai même lu dans le livre de La Cueva, celui-là, oui, une phrase qui m'a un peu déplu, quoique par ailleurs il semble dire le contraire, comme si le chrétien n'avait plus à obéir à des commandements, car le chrétien est conduit de l'intérieur et pas de l'extérieur par une loi. Mais alors, pourquoi y a-t-il, et nous y reviendrons quand nous parlerons de l'éthique professionnelle et de l'éthique civique et de l'éthique personnelle même, pourquoi donc y a-t-il dans le Nouveau Testament tant de commandements, tant de prescriptions que l'apôtre nous adresse? Pourquoi dit-il que ce qu'il écrit est un commandement du Seigneur, 1 Corinthiens 14, 37, que le chrétien doit obéir, 2 Corinthiens 2, 9, et que lui-même, Paul, était prêt à châtier toute désobéissance, 2 Corinthiens 10, verset 6. Vous voyez, chers frères, qu'il y a des commandements dans le Nouveau Testament pour les chrétiens et pas seulement des commandements dans l'Ancien pour les juifs. Bien entendu, ces commandements devraient nous pénétrer et nous devrions, par amour pour Dieu, faire ce que Dieu veut que nous fassions. Mais comment connaître cette volonté de Dieu et comment l'aimer véritablement et pratiquement si nous n'entendons pas d'abord, si nous ne recevons pas d'abord ces commandements? L'obéissance n'est pas un état d'enfance, comme certains voudraient nous le faire croire. Un état d'enfance duquel le chrétien mûr, adulte, devrait sortir. Car il est dit de Jésus-Christ que lui-même, bien qu'il fût fils de Dieu, a dû apprendre à obéir. Hébreux 5, 8. Et qu'il fut obéissant jusqu'à la mort. Donc, jusqu'à la mort, ça veut bien dire qu'il n'était plus un enfant. Mais que jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la mort sur la croix, il a obéi à son Père. Alors, quelle prétention ce serait de notre part que d'affirmer que, en devenant chrétien adulte, mûr, au bout de tant et tant d'années, nous n'avons plus besoin d'obéir. Nous pouvons simplement vivre notre vie en nous laissant conduire par l'intérieur. Au nom de l'amour, peut-être arrêtons-nous 5 minutes, si vous voulez bien. Ça nous donne un peu, décroche un petit peu. On a le temps, 5 minutes de repos, avant d'aller prendre la dernière partie qui n'est pas très longue. Alors on en vient maintenant à ce que tout à l'heure quelqu'un d'entre vous avait relevé, l'amour, n'est-ce pas ? Au nom de l'amour. Je ne sais pas si notre frère Jörg a connu le pasteur Schwinn à Vienne. Schwinn, ça ne veut dire rien. Pasteur réformé, qui est mort il y a en 83. Et à l'époque, j'avais relevé, parce que le sujet m'intéressait depuis longtemps, l'éthique chrétienne, j'avais relevé ce qui fut dit de lui, à son sujet, dans le journal du Jura. Et là, il fut présenté comme un des meilleurs et des plus grands pasteurs que Vienne n'eut jamais. Donc, c'est pas Jörg, hein. Le meilleur est... Bon, tu vois. Alors, tu es loin du meilleur, hein. Alors, je ne veux pas juger, n'est-ce pas, et encore moins condamner, mais je relève une parole qu'il a dite. L'amour, c'est pouvoir dire à l'autre, sois toi-même, fais ce que tu veux, ou désire faire, ou ce que tu désires faire, tu es ton propre chef. Voilà. Fais ce que tu veux, ça c'est l'amour. Et c'est ce qu'il a dit aux gens. Vivez comme vous l'entendez. Soyez votre propre maître, votre propre chef, et voilà, sois toi-même. C'était le meilleur des pasteurs que Bien ait jamais eu. Alors je pense que maintenant Jörg n'est plus fâché contre moi d'avoir dit que le meilleur n'était pas lui. Bien sûr, Augustin a aussi dit aime Dieu et fais ce que tu veux. Je crois que la Cueva nous le rappelle, n'est-ce pas ? Aime Dieu et fais ce que tu veux. Mais je pense qu'on a parfois mal interprété la pensée d'Augustin. Parce que aimer Dieu, ça veut dire quoi ? D'après l'Évangile, d'après Jean, ça veut dire garder ses commandements, n'est-ce pas ? C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas un vague sentiment, une affection profonde qu'on aurait pour quelqu'un ou qu'on aurait même pour Dieu. C'est quelque chose qui se prouve par l'amour, par l'obéissance aux commandements. L'amour et l'obéissance ne font qu'un. Et l'obéissance est l'expression de notre amour pour Dieu. Autrement, il n'y a pas de vrai amour. Et quiconque sépare l'un de l'autre accomplit, à mon avis, une œuvre de dissolution. L'amour ne remplace pas les commandements de Dieu, il les accomplit. Et ça, je crois que c'est le pur évangile. Ce qui compte, dit même l'apôtre Paul, c'est l'observation des commandements de Dieu. Ça nous paraît très fort. Lui qui a tant parlé de la grâce de Dieu et de la foi. Maintenant, il dit dans 1 Corinthiens 7, 19, ce qui compte, c'est l'observation des commandements de Dieu. 1 Corinthiens 7, 19. Ne péchons pas contre la vérité au nom de l'amour. C'est un danger, de pécher contre la vérité au nom de l'amour. L'amour n'est pas ce que certains en ont fait. Une sorte de bienveillante tolérance du mal, de l'erreur et du péché. C'est ça l'amour pour certains. Tolérer le mal, tolérer le péché, tolérer l'erreur, alors on a de l'amour. Aimer ainsi, c'est plutôt perdre des âmes. Cette fausse notion d'amour conduit à cette conception que tout à l'heure nous indiquions déjà d'une conduite de l'intérieur par le Saint-Esprit. On met tout au compte du Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a dit, Saint-Esprit m'a montré, Saint-Esprit m'a conduit de telle et telle manière. C'est vrai que le Saint-Esprit nous parle. Mais comment nous parle-t-il ? À mon avis, surtout par la parole de Dieu. On pourrait ajouter par les événements, par une maladie, par un accident, par un décès, bien sûr. Mais il est clair, notre conduite, il nous montre la conduite à adopter en éclairant la parole de Dieu, que je lis, que je médite. D'où l'importance de lire la parole de Dieu, de la méditer et de l'étudier. Nous avons besoin, dit Nicole, Jean-Marcel Nicole, nous avons besoin de prescriptions détaillées pour savoir comment un amour authentique doit se manifester. Nous en avons besoin. L'amour n'est pas quelque chose de vague, comme dit tout à l'heure. Nous avons besoin, il a besoin d'être éclairé, et même par des détails que nous donne la parole de Dieu. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Hébreux 8, 10. Voilà l'évangile. Voilà la nouveauté. La loi n'est plus écrite sur des tables de pierre, mais elle est écrite dans le cœur, ou dans l'esprit, il y a les deux formules. Et comment donc cette loi est-elle écrite dans le cœur ou dans l'esprit? Par l'enseignement des lois et des commandements que nous donne l'Écriture, pas autrement. Que ce soit l'Écriture directement, que ce soit par ce qu'un frère, ce qu'une prédication nous apporte, mais c'est par le moyen de l'Écriture que les lois de Dieu sont inscrites ou imprimées, lentement mais sûrement, dans nos cœurs. Et j'ai dit hier déjà, je le répète maintenant, qu'il y a certainement une zone où les détails, les précisions bibliques peuvent faire défaut. Peut-être parce que nous avons d'autres problèmes que les premiers chrétiens. Nous vivons dans un autre contexte que les premiers chrétiens. Alors je crois que les grands principes bibliques doivent s'appliquer en accord avec la sagesse chrétienne. Et un de ces grands principes, que vous connaissez bien, fait tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Comme Paul a aussi dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si nous avions ces critères, si nous employons ces critères, est-ce utile? Est-ce vraiment pour la gloire de Dieu? Je crois que la lumière se ferait dans bien des domaines dans notre vie par rapport à la conduite que nous devons adopter. Et j'arrive à la conclusion, parce que certaines feuilles sont plus longues que d'autres, et je ne serai pas toujours aussi long que hier soir. On a perdu le maître étalon dont nous parlions hier, ou on le rejette, et le monde est déboussolé, comme on dit. Les chrétiens s'adaptent à l'évolution des mœurs. Le sel perd sa saveur. Et le relativisme, la permissivité, l'humanisme, les idéologies humaines s'imposent de plus en plus. C'est la banalisation du mal. Il n'y a plus de mal. C'est le conflit entre ce que l'on appelle les rigoristes et les laxistes. Ou sur le plan catholique, quelquefois, les progressistes et les intégristes. On retrouve ces tendances chez nous. On les retrouve dans le monde même. Mais partout dans la nature, l'ordre passe au désordre si les choses sont livrées à elles-mêmes. Partout. Quand il n'y a plus de loi ou quand les lois ne sont plus respectées, on passe de l'ordre au désordre. C'est une loi. Elle est valable dans tous les domaines. Il y a des similitudes entre les lois physiques et les lois morales. Et je voudrais que nous retenions l'image de cette histoire qui vous est connue, certainement, d'une grenouille dans une casserole, dans l'eau bien entendu. On chauffe cette eau et la pauvre bête ne s'aperçoit pas, paraît-il, c'est pas moi qui a fait l'essai, loin de moi cette pensée, mais il faut croire que certains l'ont fait l'essai. Il paraît que la pauvre bête ne s'aperçoit pas de la montée de la température et périt misérablement dans l'eau bouillante. C'est une image qui nous rappelle en effet que on ne se rend pas compte. On vit tranquillement, en bon père de famille, on se promène, on mange, les enfants vont à l'école, le père exerce sa profession, et puis lentement les choses se dégradent sans que l'on en s'en aperçoit. Et je crois que c'est là le plus grand danger. De ne pas être conscient du mal qui se propage. Et de se laisser lentement prendre dans l'engrenage, dans le bain, sans se rendre compte que l'eau chauffe et que si ça continue ainsi, on périra. Quand il n'y a plus de vision ou de révélation, selon les traductions, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Proverbe 29, 18. Parole sur laquelle peut-être la plupart d'entre vous ont déjà prêché un jour. Quand il n'y a plus de révélation, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. N'est-ce pas l'image de notre époque? Un peuple sans frein. Heureux, ajoute ce proverbe, celui qui observe la loi, proverbe 29-18. L'écroulement des garde-fous. Voilà ce que je voulais essayer de rappeler, qu'il y a un écroulement des garde-fous. Un certain Roger Icor, qui a écrit « La tête du poisson ». Je ne sais pas si quelqu'un a lu ce livre. C'est un homme dont le fils a été entraîné par les enfants de Dieu, je crois, dans ce mouvement des enfants de Dieu, et qui a écrit pour mettre en garde contre certains dangers, mais qui, à côté de ce danger qu'il relève, va beaucoup plus loin et montre que le mal s'attaque toujours à la tête. C'est un proverbe chinois, je crois, la tête du poisson. Que la tête, paraît-il, là encore je ne suis pas expert en la matière, la tête du poisson pourrit en premier lieu. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi nous qui pourraient le confirmer. Et dit que la tête de la civilisation, quand les autorités, quand les églises même, les conducteurs, sont en train de céder, de pourrir en quelque sorte, alors le corps tout entier est perdu. Et il dit qu'il y a deux causes accidentelles pour qu'une civilisation succombe. La première, c'est l'agression brutale de l'extérieur. Et la deuxième, c'est la maladie interne. Les deux mènent au même but. Et je crois que, au fond, je dirais que nous subissons les deux. Il y a certainement une agression de l'extérieur, mais le plus grand mal, c'est la maladie interne. Si le mal est en nous, si le mal est dans nos églises même, et d'une façon toute particulière, chez les serviteurs de Dieu, et dans les milieux évangéliques, qui aiment la parole de Dieu, qui en font leur fondement. Nous ne pouvons pas demander cela aux serviteurs de Dieu qui doutent de la parole de Dieu, qui critiquent la Bible. Mais nous pouvons, je dirais, presque l'exiger de ceux qui prétendent que la parole de Dieu est vraiment leur fondement unique. Tout ce qui vit tend à se répandre aussi loin qu'une barrière ne s'y oppose. La barrière, le frein, d'après le proverbe tout à l'heure, ce sont les chrétiens, l'Église véritable, nos communautés fidèles à la parole de Dieu. Et voyez-vous, il n'y a pas que l'immoralité contre laquelle nous avons à lutter dans ce monde. Il y a l'amoralisme, amoral, le petit a veut dire qui n'a pas de morale. Il y a des gens qui ne sont pas forcément immoraux, mais ils n'ont pas de morale, ils n'ont plus de morale. Ils ne savent même plus ce qui est moral. C'est un peu comme du temps des juges, juge 17, verset 6e, parole bien connue. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, bien-aimés, où nous arrivons, voilà où nous allons, s'il n'y a pas quelque part de nouveau une autorité, s'il n'y a pas quelque part de nouveau un frein, s'il n'y a pas quelque part de nouveau une barrière, une digue, ou des remparts, si vous voulez, pour revenir à l'image du début, qui arrête ce courant et ce mouvement. Voilà, je m'arrête ici. J'ai trouvé aussi une barrière.